Donc nous allons laisser maintenant la parole à notre deuxième intervenant. Donc qui est tout seul, puisque la deuxième personne l'a laissé, mais ça va ?
Il m'a abandonné.
Il vous a abandonné ?
Oui.
Ah, bon, on lui dira. Alors, il s'agit de M. Saïd Kadraoui, qui est enseignant à l'université de Batna, en Algérie, et ancien élève de l'université de Lyon 3, retour aux sources. Donc, son domaine de recherche, littérature générale et comparée. Je voudrais signaler également que M. Kadraoui est responsable de la filière des sciences des textes littéraires de l'école doctorale algéro-française et de français. Voilà, alors je vais lui laisser la parole. Il va nous parler de littérature-histoire, une interdisciplinarité en question. Donc, vous voyez, on vous demande déjà de réserver des questions, de poser des questions à monsieur. Voilà.
Merci, madame. Honorable assistance, bonjour. Donc, je commence par remercier les organisateurs de ce séminaire international pour, d'une part, m'avoir permis de revenir à l'université, donc Lyon 2, Lyon 3, après avoir abandonné les bancs des études, c'était en 87, et d'instaurer ce débat scientifique dont l'intérêt est triple. L'intérêt de ce séminaire consiste à mettre en relief cette interdisciplinarité, non pas uniquement entre la littérature et l'histoire, mais aussi entre la didactique, la littérature et l'histoire. Une interdisciplinarité que les pratiques pédagogiques imposent. Parler de la didactique, c'est parler des stratégies les plus efficaces pouvant faciliter l'accès à telle ou telle discipline. Notre cas, c'est l'établissement de relations implicites ou explicites entre la littérature et l'histoire. D'ailleurs, d'emblée, je dirais que sans l'inscription de la littérature dans l'histoire, la littérature, elle est impensable. Parfois irrécevable, incompréhensible. Certaines œuvres littéraires en dehors de la dimension historique sont fades. Je donnerai des exemples illustratifs. À partir cette fois-ci de la culture arabo-musulmane, de la littérature arabe, donc je vais vous demander où je vais faire un déplacement donc de la littérature française vers la littérature, je dirais, arabe et aussi la littérature francophone dans la mesure où je donnerai certains exemples de la littérature algérienne d'expression française, maghrébine d'expression française, là où la dimension historique donc émerge, saute aux yeux. Le titre du séminaire tel que conçu par les organisateurs, les concepteurs de ce séminaire, il est révélateur. Révélateur parce qu'il fait appel à une sorte d'opposition binaire, une opposition binaire que je qualifie personnellement de féconde. Vous avez littérature avec sa dimension subjective, sa particularité ou ses particularités au niveau de la langue et au niveau des autres dimensions. Et vous avez de l'autre côté de la barre l'histoire avec une certaine objectivité. Donc cette première opposition binaire se manifeste entre subjectivité, relativité littéraire, entre et la deuxième partie de cette équation, de cette opposition binaire, c'est donc l'objectivité et l'exactitude des faits et des événements historiques. Si je m'inscris donc dans cette dimension didactique, la question que je me pose personnellement est la suivante. Comment l'enseignant didacticien initie les apprenants à la lecture historique des œuvres littéraires? De cette première question découle une autre question. Comment l'enseignant didacticien peut faire aimer aux apprenants la dimension historique de la littérature? Ce matin, en écoutant un collègue, ou dans l'intervention d'un collègue, il a parlé d'une certaine polémique entre le rapport littérature et histoire. Ce rapport n'est pas approuvé par tout le monde, donc il est polémique, et je dirais que cette polémique fait partie de tout discours. Tout discours est polémique, et si nous nous inscrivons dans le discours littéraire, je dirais que le discours littéraire il est beaucoup plus polémique que les autres discours. Rapport littérature-histoire, une autre question émerge, c'est celle de la lecture, une question soulevée par les collègues. Nous savons tous que la principale problématique de la littérature est la lecture. À partir de quels paramètres, de quels critères nous pouvons lire, interpréter un texte littéraire? Et là, la lecture dont il est question, si je m'inscris dans les actes de ce colloque, c'est la lecture historique. Et il est admis communément que lire une œuvre littéraire, c'est être en mesure de franchir plusieurs barrières à la fois. Vous avez la barrière culturelle, la barrière linguistique, la barrière sociologique, la barrière psychologique, la barrière historique. Et la barrière historique, dans notre cas, se présente comme une barrière essentielle qui permet de déchiffrer et de décortiquer un texte littéraire ou une œuvre littéraire. Dans le même contexte, dans la même perspective, l'inscription historique de la littérature fait appel à trois sous-inscriptions. L'inscription historique du texte source, de l'œuvre, l'inscription historique de l'apprenant et l'inscription historique de l'auteur. Et dans ces trois inscriptions, il y a une sorte de variabilité dans la mesure où le discours, même s'il est historique, il est interprété, il est lu différemment en fonction de différents paramètres, en fonction de différentes considérations. Je donne un exemple. Je lis le récit de Plutarque sur Cléopâtre, le récit historique de Cléopâtre, et je m'intéresse à la fuite de Cléopâtre de la bataille d'Actium. Dans cette bataille, donc, il y avait deux forces militaires qui s'entretuaient, les forces d'Octave César, le chef romain, et les forces de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Dans cette bataille, Cléopâtre s'est retiré. Ce retrait est défini pratiquement par tous les historiens comme étant une trahison. Il s'agit d'un fait historique réel. Cléopâtre donc s'est retiré et a laissé Marc-Antoine livrer combat tout seul contre son frère ennemi. Donc c'est un retrait vérifié par l'histoire et c'est un retrait incontestable. Donc pour tous les Occidentaux, ce retrait est une trahison. Une autre lecture est donnée à ce retrait, à ce fait historique. Pour Ahmed Chouqi, le dramaturge égyptien, ce retrait est synonyme de stratégie, de tactique de guerre. Le but de ce retrait est de laisser les frères romains s'entretuer pour pouvoir par la suite s'accaparer de toute la Méditerranée. Polémique. Et là, un problème se pose quant à la question de la vérité, de la véracité des faits et des événements historiques rapportés par la littérature, rapportés par les écrivains. J'insiste sur cette polémique en disant que dans la lecture comme dans l'écriture, toujours dans le cadre de la dimension historique, on ne peut pas ne pas parler de l'horizon d'attente et de l'auteur et du lecteur et de l'apprenant. Un horizon d'attente que je peux qualifier personnellement comme étant un système de normes et de références historiques dans un moment donné pour un public donné à partir duquel s'effectue la lecture historique d'une œuvre littéraire. Donc, un système de normes et de références est forcément variable, changeable, modulable, adaptable à telle ou telle considération. Donc, on revient toujours à la question de la véracité, de la réalité et de la vérité des faits rapportés par la littérature. Mais on ne peut en aucun cas sous-estimer le rapport très étroit entre la littérature et l'histoire, comme le confirment beaucoup d'œuvres littéraires. Je viens de vous dire que la littérature hors ou en dehors de l'histoire, elle est impensable. Elle est impensable. Dans la littérature française, vous avez La Légende des siècles de Victor Hugo. Dans la littérature française, vous avez La Henriade. Dans la littérature algérienne, d'expression arabe, mais l'œuvre elle est traduite en français, vous avez L'Iliade algérienne de Moufdi Zakaria ou Cantique des Cantiques. Dans ce long poème épique, toute l'histoire algérienne, des origines des plus lointaines, défile devant le lecteur. Pour les analystes, les critiques et même pour les historiens, cette œuvre poétique, elle est considérée comme un document historique d'une valeur scientifique, d'une valeur historique incontestable, incontestable. Vous avez aussi un autre exemple, l'exemple du prince des poètes arabes, Ahmed Chouri. Dans son poème les grands événements, je traduis, les grands événements au bord du Nil. Dans ce long poème épique aussi, c'est toute l'histoire de l'Égypte qui est relatée. Donc, la littérature a depuis toujours entretenu de relations très étroites avec l'histoire. Si je suis appelé à donner un autre exemple, je vous renvoie à la littérature antique. L'Iliade, l'Odyssée sont des documents dont la valeur historique est incontestable. De nos jours aussi, dans la littérature française, vous avez Madame Bovary de Gustave Flaubert qui nous inscrit dans la société française de l'époque, une société conservatrice, et la mentalité donc historique de la société française de l'époque n'a pas accepté certaines descriptions faites par Gustave Flaubert. Gustave Flaubert a été condamné et son œuvre a été considérée comme nulle et non avenue. Ce n'est que par la suite, évolution oblige, évolution de la mentalité historique, évolution de la culture, que Flaubert a été réhabilité et Madame Bovary est de nos jours considérée comme l'une des chefs-d'œuvre de la littérature française. Il me reste moins de 5 minutes.
6 minutes. Pour prendre 7.
7. Merci de votre générosité. Donc, du rapport littérature-histoire, il y a possibilité de s'intéresser ou de s'interroger sur le style historique, de découvrir la mentalité d'une époque, de connaître le passé, de présenter des témoignages en accumulant des faits matériels écrits oraux, de procéder à des comparaisons, de passer à la critique, de discerner l'authentique de l'inauthentique, le réel de l'irréel, de vérifier l'exactitude historique, de saisir des dates, de replacer des faits dans leur ordre chronologique, de toucher à des crises historiques. Certaines œuvres littéraires sont à ce titre des livres ouverts sur l'histoire. Et pour certains, là je cite, le texte littéraire est un truchement historique. Ce qui signifie qu'il n'existe pas de pensée littéraire sans une pensée historique. C'est pourquoi nous estimons que toute action littéraire suppose un investissement historique et que nous sommes inconsciemment esclaves de notre pensée historique. La dialectique littérature-histoire nous invite à réfléchir à l'interrogation suivante. Quel type d'approche pourrait bien être suggéré à un enseignant par le concept de littérature combiné à celui de l'histoire et qui démarquerait de manière suffisamment objective sa posture épistémologique d'un texte essentiellement poétique à l'épineuse problématique des signes et des mentalités historiques en situation de communication littéraire? Aussi, nous pouvons nous demander à quel prix le récit historique peut rester romanesque et comment la littérature peut servir l'histoire. Lire une œuvre littéraire, surtout si la dimension historique prédomine, devient non seulement étudier la langue, mais aussi l'occasion d'établir un parallèle entre la découverte d'une mentalité historique, voire de toute une histoire. Dans le domaine de la didactique, le professeur transmet non seulement des modèles langagiers, mais aussi des connaissances historiques. C'est pourquoi les textes littéraires ne doivent pas être proposés aux apprenants pour leur transmettre uniquement un savoir langagier, mais comme une série de faits historiques. La littérature permet de voir l'univers historique avec les yeux du littéraire. De là, il en découle que le texte littéraire est incontestablement d'une dimension historique. L'œuvre littéraire est transhistorique, si bien par le langage qu'elle utilise que par les événements qu'elle rapporte. Là, une citation, je termine avec cette citation. Le rapport de l'histoire à la littérature est un rapport souvent fait de malentendus. Mais il n'y a aucun discours bipolaire du moment que l'écriture de l'histoire passe le recours à l'imaginaire. Cette dialectique histoire-écriture tend à se résoudre dans des discours particuliers où l'histoire et l'écriture ne font qu'un, car l'écriture de l'histoire est en effet littéraire. Il reste que l'histographe met en œuvre, outre une langue et toute sa culture, une rhétorique. Mais ce n'est pas seulement l'écriture qui fait l'histographie, c'est aussi l'histoire qui saisit l'écriture. Et c'est à l'œuvre dans l'actualité du sens que dit la littérature. Si le temps investit l'écriture, l'écriture aussi donne le temps du sens à la pensée et en est le repos. C'est d'ailleurs cette profonde expérience de l'historicité de l'écriture et de la littérature qui a donné et donne encore à penser. Merci de votre attention.
Je vous remercie beaucoup. Une petite question qui presse ou vous préférez la garder pour la fin ? Cléopâtre ? Alors je laisse Madame Rossignol, puis on reprendra les questions après. Oui. Donc, venir.